Chapitre 10e. Ce serait douter de la pénétration du lecteur que de supposer qu'il n'a pas depuis longtemps reconnu dans la jeune fille, protectrice d'Onésime, Mademoiselle Sabine Cloarec, qui n'avait que 5 ans lorsque sa mère était morte des suites d'une commotion terrible. Nous espérons aussi que la pénétration du lecteur n'a pas été non plus en défaut à l'endroit de la gouvernante, Suzanne Robert, autrefois nourrice de Sabine, et femme de confiance de Madame Cloarec. Quant au capitaine corsaire l'endurci, et à son fidèle maître canonnier, mais nous nous arrêtons de crainte de blesser le lecteur dans sa sagacité. Monsieur Le Goffin entra donc dans le salon que venait de quitter Mademoiselle Cloarec et Onésime, et où se trouvait Dame Robert. Le Goffin, depuis environ 12 ans que nous l'avons perdu de vue, était peu changé. Il avait toujours sa longue figure, blafarde et impassible, comme celle de Pierrot, couronnée d'une petite perruque noire, ressemblant à un serre-tête. Les seules modifications que le temps, ou plutôt les événements, eussent apportées à ses traits d'une gravité grotesque étaient 1. Une profonde cicatrice commençant à la tempe gauche et se terminant au bas de la joue. Blessure occasionnée, affirmait-il, par sa chute malencontreuse sur un tesson de bouteille. 2. La perte toute récente d'un œil, perte douloureuse, annoncée par un large emplâtre noir et causée sans doute par une autre malencontre. Malgré ces graves atteintes portées à ses avantages naturels, M. Le Goffin n'en tenait pas moins la tête haute. Autour de son cou de cigogne s'enroulait une longue cravate de mousseline blanche anglaise à pois rose dont les bouts retombaient sur son gilet de drap noir. Sa longue redingote à boutons de métal blanc était de couleur noisette comme son pantalon, qui caressait agréablement ses bas de filoselle noire et ses gros souliers lacés. De sa main droite, privée de 2 doigts laissés, disait-il, par imprudence entre les dents d'une machine, il s'appuyait sur une grosse canne, car il boitait fort bas, par suite d'une autre inadvertance. Somme toute, à voir M. Le Goffin, on l'eût pris, sauf la balafre, pour un vieux clerc de notaire ou pour un juge de province, pacifique apparence parfaitement en rapport d'ailleurs, avec ses nouvelles fonctions de commis de M. Cloarec, négociant en rouennerie. À l'aspect de Le Goffin, Dame Robert, malgré les sarcasmes dont elle avait l'habitude de le poursuivre depuis tant d'années, ne chercha pas à cacher le contentement qu'elle éprouvait de le revoir. Tout à l'affectueuse joie que lui causait ce retour, elle ne s'aperçut pas d'abord que Le Goffin tâchait de manœuvrer de façon à n'être envisagé par elle que de profil, ou au plus de 3/4. Il voulait ainsi reculer autant que possible l'heure des explications sur la perte récente de son œil. Mais la gouvernante, en allant au-devant de son ancien commensal, remarqua bientôt que, parti avec ses 2 yeux, sinon bien beaux et bien grands, du moins perçants et malins, le commis de M. Cloarec revenait avec un énorme emplâtre. Aussi s'écria-t-elle: « Ah, mon Dieu, qu'avez-vous donc sur l'œil, Le Goffin ? Où ça ? Comment où ça ? Mais sur l'œil droit ? Sur l'œil droit, ma chère. Oui, ce large emplâtre noir. Ah, très bien, dit flegmatiquement notre homme, je sais ce que c'est. Je crois que vous le savez, et moi je crains de le deviner. Allez, devinez, ne vous gênez pas. Encore une blessure, suite de quelque maladresse. Quoi ? Fit Le Goffin d'un air détaché. Un œil, un simple œil. Il sera vrai, vous avez perdu un œil. Ce qui est fait, est fait. Il ne vous manquait plus que cela. Ainsi vous voilà borgne. Pour vous servir. Merci du cadeau. Vous ne direz pas toujours cela, ma chère. Ce qui sera, sera. Il y a longtemps que vous me ravachez cette prédiction-là, mon pauvre Le Goffin. Elle se réalisera. Jolie perspective, en vérité. Car je voudrais bien savoir, si cela continue, ce qu'il vous restera de vous-même dans quelques années. Car enfin, lorsque de presque tous les voyages de M. Cloarec, vous revenez ici avec quelque chose de moins, c'est vrai. Depuis que monsieur s'est mis dans le commerce et qu'il vous a pris pour commis, je suis sûr qu'il y a aux Invalides des militaires moins blessés que vous. À chacun son état et ses chances. Et c'est en faisant votre état que vous avez perdu un œil, justement. Je serais curieuse de savoir comment. C'est bien simple. M. Cloarec me reprochait depuis longtemps quelques confusions dans mes chiffres. Le fait est que ma vue baissait terriblement. Je me dis, À cela, il y a un remède, c'est de porter lunettes. Bien raisonné, n'est-ce pas, ma chère?
C'est évident. Après?
J'achète donc une paire de lunettes. C'était à Lyon.
Ah, scélérat de marchand, fit le Goffin, en fermant les poings avec une expression de fureur rétrospective.
Ah, gredin, pandard, brigand.
Voyons, le Goffin, calmez-vous et continuez.
Il faisait un soleil superbe. La boutique de cet opticien était en plein midi.
Sur le quai du Rhône, ma chère, en plein midi.
Notez bien cela.
Qu'est-ce que cela fait?
Cela fit énormément.
Je demande donc des lunettes à essayer.
Le scélérat m'en donne une paire.
Je l'ajuste sur mon nez.
À ce moment, on entend des cris sur le quai.
Naturellement, je cours à la porte par curiosité.
Je vous reconnais bien là.
Je cours donc à la porte, toujours avec les lunettes sur le nez,
renotez encore ceci.
Ensuite, je regarde de côté et d'autre, en bas, en haut, pour savoir d'où partent ces cris,
lorsque tout à coup, on regarde en haut, hein, ma chère.
Achevé!
Je sens à l'œil droit une douleur aussi aiguë que si j'avais eu la prunelle percée par un fer rouge.
Oh mon Dieu! Et qu'était-ce donc?
Par une erreur de cet animal d'opticien, un des verres de mes lunettes était un verre horriblement grossissant,
dit le Goffin d'un ton lamentable.
Un verre de loupe! Et comme j'avais levé le nez en l'air, le soleil du midi frappant en plein sur les lunettes, l'un des verres avait opéré sur mon œil comme on opère avec une loupe sur de l'amadou. J'avais l'œil brûlé, calciné, ma chère. Ça fait pfff, et j'étais borgne.
Est-ce bien possible? S'écria Dame Robert avec stupeur, pouvant à peine croire à ce singulier effet d'optique.
C'est ainsi que vous avez perdu l'œil?
Ce qui est fait, mais je dois dire à la décharge de l'opticien que depuis que je n'ai plus qu'un œil, le gaillard en vaut deux. J'ai mes yeux, ou plutôt mon œil, de 15 ans.
Aussi je vous vois belle,
oh mais belle, comme vous l'étiez à 15 ans, ma chère.
Malheureusement, mon pauvre le Goffin, moi qui n'ai que mes yeux de 43 ans bien sonnés, je vous vois comme vous êtes. Mais parlons sérieusement. Je vous plains de ce nouvel accident. Ce sera, je l'espère, le dernier. Car monsieur a dit à mademoiselle qu'il ne voyageait probablement plus, et par fatalité, il ne vous arrive jamais malheur que pendant ces voyages. Enfin, sauf la perte de votre œil, comment tout s'est-il passé cette fois?
Parfaitement.
Monsieur a été content de ses affaires?
Très content. La vente a été à ravir.
Et monsieur se porte?
Comme un charme.
Et ses accès de tristesse? Quand il vient à songer à la mort de cette pauvre madame?
Il les a toujours.
Alors il s'enferme, reste seul pendant quelques heures et quand il sort, on voit qu'il a pleuré. Puis ça passe, et ça revient de temps en temps.
Et son caractère?
Je suis un salpêtre auprès de lui.
Ainsi, en voyage, pas plus d'accès de colère qu'ici?
Pas davantage.
En vérité, quand on pense à ce qu'était monsieur il y a 12 ans, hein, le Goffin, c'est le jour et la nuit.
Cela me fait penser qu'encore aujourd'hui, cette chère mademoiselle Sabine a eu une de ces crises nerveuses en se rappelant la mort de sa pauvre mère.
Enfin, dans un pareil malheur, il est du moins bien heureux qu'elle n'ait pas reconnu monsieur sous son costume breton, lors de cette terrible soirée où madame est morte. La pauvre enfant croit toujours que c'est un étranger qui a tué sa mère, et ce funeste souvenir l'a fait quelquefois délirer.
Heureusement, ce secret, elle l'ignorera toujours, dit le Goffin en soupirant.
Triste nuit, en effet, que celle-là.
Ah, qu'il s'est passé deux choses depuis ce temps-là, le Goffin. Quelles inquiétudes pour cette chère enfant, pour monsieur.
N'ai-je jamais été inquiet, moi, ma chère?
Est-ce que vous vous inquiétez jamais de quelque chose, vous?
Enfin, ai-je jamais désespéré?
Non, c'est vrai.
Lorsque nous avons vu monsieur dans le désespoir d'avoir causé la mort de sa femme, puis destitué de sa place de juge, qu'il aidait à vivre, qu'est-ce que je vous ai dit, ma chère? Quand vous étiez à gémir sur l'avenir, je vous ai dit « Au loup la forêt, au pigeon le colombier ».
C'est encore vrai.
Mais quant à ce beau rébus, comme je ne le comprends pas plus maintenant que je ne l'ai compris autrefois,
vous avouerez qu'il ne devait pas me paraître suffisamment rassurant.
C'est possible, mais moi je m'entendais,
et je m'entends.
Monsieur a donc réalisé le peu qui lui restait pour subvenir aux besoins de sa fille, qu'il vous a confié, et lui et moi nous sommes partis.
Oui. Et pendant 2 ans, nous n'avons pas eu de vos nouvelles.
Dame.
Monsieur Clarec, malgré ses 30 ans, est allé passer ce temps-là dans une maison de commerce, pour apprendre, le négoce.
car il a toujours eu un goût naturel pour le négoce. » répondit le goffin d'un air de malice contenu. « Vous avez dû vous en apercevoir, ma chère. »«
Ma foi, non. Et il fallait votre sagacité pour deviner cela, le goffin. »
« C'était pourtant comme j'ai l'honneur de vous l'affirmer, ma chère. »
Monsieur s'est dit, « Voilà ma magistrature au diable.
Ma fille a à peine de quoi vivre pendant quelques années. Je ne suis décidément pas bâti pour la judicature. J'ai du goût pour le négoce. Soyons négociants. » Et il est devenu un fameux négociant, car il a fait pour sa fille une belle fortune, sans compter que lui, qui était colère comme un coq en amour, est à présent doux comme un mouton. Est-ce encore vrai?
C'est la pure vérité, le goffin. Et je vous l'avoue, ce n'est pas tant la fortune que monsieur a faite qui me surprend. Car après tout, le commerce, c'est une loterie. Ce qui m'étonne, c'est ce changement complet dans le caractère de monsieur.
Pah! Fit le goffin d'un air narquois. C'est l'effet du commerce.
Qu'est-ce que vous me contez là, le goffin?
Certainement, ma chère, ajouta notre homme d'un ton sentencieux. Le commerce est le lien des hommes, car vous sentez bien que si un négociant offrait sa marchandise à grands coups de poing sur la tête, ou qu'il reçut les acheteurs à grands coups de pied dans le ventre, ça ne rendrait pas les transactions excessivement coulantes.
Pourtant, le goffin, entendons-nous, l'état de juge demande un caractère au moins aussi conciliant que celui de négociant.
Comment se fait-il alors que monsieur ait été calmé par le négoce? Comme vous dites, lui qui était autrefois si violent, qui allait, vous vous en souvenez, le goffin, jusqu'à jeter des présidents par les fenêtres.
Cette question de haute psychologie parut un moment embarrasser notre homme. Cependant, comme on le prenait rarement sans verre, il répondit «
C'est tout simple, vous allez comprendre cela tout de suite, ma chère, c'est simple comme bonjour. Voyons,
un enfant comprendrait cela.
Enfin, voyons !»
« Voici, dit le goffin d'un air capable,
au loup la forêt, au pigeon le...
Tenez, vous serez toujours le même, le goffin, une insupportable créature !» s'écria la gouvernante en interrompant son ancien commensal.
« Les années, les voyages et le négoce ne vous ont pas changé, vous, moralement s'entend, car au physique c'est différent.
« Tenez, ingrat ami, dit le goffin en tirant de sa poche et offrant galamment à Suzanne une boîte de forme particulière. Un homme, quelque peu marin et canonnier, eut reconnu cette boîte pour une boîte à étoupies.
« Voici comment je me venge de vos duretés. »«
Qu'est-ce que cela, le goffin ?»
demanda Suzanne.
« Les petits cadeaux entretiennent l'amitié, et au fond, vous en avez pour moi, méchante. »«
Si j'ai de l'amitié pour vous, vous ne le savez que trop, vilain homme, » répondit la gouvernante en ouvrant la boîte et en développant un assez grand morceau de parchemin contenant le cadeau de le goffin, qui d'avance souriait complaisamment à l'effet que son présent devait produire.
« Ah, mon Dieu !» s'écria Suzanne, presque avec effroi.
« Ce parchemin est comme brûlé un bout et l'autre taché de sang. »«
Ah oui !»
reprit imperturbablement le commis de M. Cloarec.
« C'est le restant d'un morceau de... n'importe quoi qui m'est servi à allumer ma chandelle. Et en enveloppant les boucles d'oreilles et l'épingle d'or qu'il renferme, je m'étais piqué le doigt. Toujours maladroit. » Comme vous voyez. Aussi, je ne serais pas étonné que ces affiquets n'aient été aussi un peu ensanglantés. Mais une goutte d'eau les lavera.
La gouvernante avait retiré du parchemin. Il provenait, il faut le dire, d'un débris de gargousse, deux énormes boucles d'oreilles d'or simulant un câble noué et une large épingle d'or ornée d'une ancre surmontée d'une couronne royale. Ajoutons, comme renseignement significatif, qu'il y a 30 ans, beaucoup de matelots de la marine royale anglaise portaient encore des boucles d'oreilles, et qu'ils attachaient leurs chemises de laine au moyen de larges épingles d'or ou d'argent. La gouvernante, encore plus reconnaissante du procédé que du présent, car elle ne se sentait pas disposée à se faire distendre les oreilles par ces énormes anneaux, attacha du moins l'épingle à son corsage et dit à le goffin « En vérité, vous êtes trop galant. Ces anneaux et surtout cette épingle sont d'un goût parfait. Et comme nous habitons justement proche de la mer, le choix de cette épingle surmontée d'une ancre est rempli d'à-propos.
« C'est à moi que j'ai pensé, » répondit l'impassible le goffin, « car ces petits affiquets proviennent de la femme d'un capitaine de vaisseau. Elle a pris en échange quelques rouenneries dont monsieur m'avait gratifié. »
« Tenez, monsieur le voyageur, » dit Suzanne, en prenant sur la table le tricot de laine rouge auquel elle avait travaillé pendant la soirée. « Vous voyez que vous n'êtes pas le seul qui pensiez aux absents. »«
Comment, Suzanne, ce tricot ?»«
Est destiné à vous faire une longue et chaude cravate de laine pour l'hiver. »«
Ah, Suzanne, » dit notre homme, réellement touché du bon souvenir de la gouvernante.
« Suzanne, je n'oublierai jamais. » Malheureusement, l'expression de la gratitude de Le Goffin fut interrompue par l'entrée de M. Cloarec et de sa fille, qui se tenaient en droit bras dessus, bras dessous. Les traits d'Yvon, alors âgé de 42 ans, n'avaient pas beaucoup changé. Seulement ses cheveux commençaient à grisonner et son teint était singulièrement bruni et hâlé. Du reste, il semblait avoir gagné en souplesse et en vigueur. Sa physionomie rayonnait, ses yeux étaient remplis de larmes de joie et il s'écria en entrant « De la lumière, beaucoup de lumière, que je la voie au grand jour, ma fille chérie !» Se dégageant alors doucement des bras de Sabine, il se recula pour la contempler à loisir à la vive clarté de la lampe. Alors, debout, le cœur palpitant, les deux mains tendues en avant, il couva sa fille d'un regard rempli d'une anxieuse tendresse. Afin de s'assurer si la frêle et chère santé de cet enfant adoré s'était altérée ou améliorée depuis qu'il était parti, pendant cet examen, toutes les angoisses, toutes les espérances, toutes les idolâtries paternelles se révélèrent dans l'attitude, dans le geste et jusque dans le tremblement convulsif des lèvres d'Yvon, car il était trop ému pour prononcer une seule parole. Sabine, les traits colorés par la rougeur de l'allégresse, examinait aussi son père avec une tendre avidité. Elle s'aperçut bientôt, à l'expression de félicité croissante qu'elle remarqua sur les traits d'Yvon, qu'il confondait avec les roses de la santé le coloris éphémère que le bonheur et l'émotion mettaient aux joues de sa fille. Aussi éprouva-t-elle un grand bonheur de voir son père rassuré sur les craintes qu'il avait sur elle. Et puis enfin, quoique persuadée que Cloarec n'entreprenait jamais que les inoffensives pérégrinations nécessaires à son commerce de rouennerie, elle se sentait souvent inquiète en songeant, non pas aux périls, mais enfin aux accidents toujours possibles, même dans les voyages les plus pacifiques du monde. Aussi était-elle heureuse de retrouver à son père cette vaillante santé qu'elle aimait tant à lui voir. Ensuite de cette silencieuse contemplation de quelques instants, Yvon, appelant Sabine d'un signe de tête entre les bras qu'il lui tendait, s'écria en la serrant de nouveau contre sa poitrine « Viens, viens, mon enfant aimé. Je vois que je peux t'embrasser en toute sécurité de cœur. Je te trouve encore mieux portante que lors de mon départ. » S'adressant alors pour la première fois à Dame Robert, il lui dit avec effusion, en lui serrant affectueusement la main, « Merci, merci du fond du cœur pour vos bons soins, Suzanne. Je sais combien ils ont dû contribuer à l'amélioration de la santé de Sabine. » Regardant de nouveau sa fille, Cloarec lui tendit les bras en disant, « Encore, mon enfant, encore. » Et le père et la fille volèrent de nouveau dans les bras l'un de l'autre. « Ma chère, » dit tout bas Le Goffin à la gouvernante, les pères et les filles, c'est comme les amoureux après une longue absence. C'est content d'être seul. Vous avez raison, monsieur Le Goffin, répondit la gouvernante en se dirigeant vers la porte. Ah, Suzanne, dit le commis de monsieur Cloarec en suivant Dame Robert dans la chambre voisine, quelle belle occasion nous aurions là pour entendre tête à tête, si nous avions besoin d'en avoir un. Malheureusement, l'amour est aveugle, mon pauvre Le Goffin, et vous ne l'êtes encore qu'à moitié. « Ça n'empêche pas que vous serez Madame Le Goffin, » dit notre homme avec un accent de conviction profonde. « Ce qui sera, sera. » Et ces deux personnages, ayant doucement refermé la porte, Cloarec et sa fille restèrent seuls.